bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Junier Jean-Pierre. Maxime. Production. Mise en scène. Junier Jean-Pierre. Enregistrement. CVRP. Cette année 1825, sous le règne de Charles X, la berline de M. Hubert Hélix roule entre Touraine et Berry, au nord des marécages de la Brenne, à la limite des Pays de Loire, pour aller à Gargy, sur la rive droite de l'Indre, où se trouve le château de Bressan. Hubert Hélix ramène le jeune Maxime. Ils sont tous deux l'un en face de l'autre. L'adulte a 45 ans. Il est grand, mince, le visage osseux, les cheveux grisonnants. Il porte une redingote beige. Le jeune homme a 18 ans. Il est grand pour son âge, mince, le visage fin et les cheveux blonds. Il est encore habillé de sa tenue de lycéen.
Thank you.
Hubert lui dit « Vous ne sentez pas heureux de retourner chez vos parents ?»« Ils sont si peu mes parents. » Je ne devrais pas parler ainsi.
Je crois que vous ne m'aimeriez pas.
Mais vous les connaissez. Mon père ne pense qu'à ses affaires. Ma mère qu'à l'église. J'ai jamais eu de place dans leur vie. Je n'ai jamais eu de place dans leur vie. Et cela, vous le savez, ça a toujours été comme ça. Réalité, c'est vous, ma famille. C'est vous, mon véritable père. Il ne faut pas parler ainsi. Tes parents t'aiment, mais à leur façon. C'est vous qui m'avez pourtant éduqué. Je vais te faire une dernière leçon. Tu es grand maintenant. Tu vas rentrer dans le monde. Méfie-toi du luxe, du monde. Tout n'est qu'apparence. Les choses vraies ne se trouvent pas. Des corps simples, en dehors de tout clinquant, sois pur, pas par ignorance, mais par goût. As-tu bien compris? Oui, je crois, c'est bien. La Béruline continue sa route, nous sommes en été, il fait chaud. Château des Dépressants, qui est un château du 18e, au mur blanc. La berline s'arrête. Elle s'est arrêtée devant le perron. Personne pour les accueillir. Ils descendent de voiture et entrent dans la demeure. Je suis Hubert Elix, et voici Maxime, le fils de votre maître. Ils doivent nous attendre. Bien, monsieur. Monsieur et madame vous attendent au salon. Le domestique les conduit au salon qui se trouve au premier étage. Est meublée en meubles 18e. Au premier étage, le domestique ouvre la porte. Et les a fait entrer. se trouvent assis dans des fauteuils au milieu de la pièce, le père et la mère. Le père, Godefroy de Pressan, est un homme de 50 ans. Il est grand, mince, les cheveux noirs qui ondulent. Son visage paraît plus jeune, surtout à cause de ses yeux bleu roi. Sa femme est plus petite que lui. Elle est un peu forte, les cheveux gris, le visage sévère, porte une robe noire. Elle a 45 ans. Hubert et Maxime s'approchent d'eux et se penchent pour les saluer. Le père lui dit « Bonjour mon fils, as-tu fait bon voyage ?»«
Oui père. »
La mère se lève. Elle l'embrasse sur la joue.
« Je dois me sauver, j'ai rendez-vous avec monsieur le curé. Tu peux aller te reposer dans ta chambre si tu le veux. »«
Merci mère. »
Et la mère quitte la pièce. Le fils s'incline et sort de la pièce, suivi d'Hubert. Deux étages où se trouve la chambre, Hubert dit tout bas. Quel accueil! C'est comme ça qu'ils me reçoivent, qu'ils reçoivent leur fils après plusieurs années d'absence. Quel accueil! Jour se passe sans histoire. Maxime se promène dans la campagne avec Hubert ou reste dans sa chambre à lire. Est reparti pour ses affaires. Sa mère passe ses journées avec les comités de bienfaisance du nouveau curé. Thank you.
Après une semaine, Hubert est parti retourner à ses affaires. Avant de partir, il se sont dit adieu sur le perron. Je vais m'ennuyer sans vous, Hubert. Bientôt, vous retournerez dans votre hôtel particulier à Paris. Là-bas, vous verrez le monde. Tu n'auras plus à t'ennuyer. Et puis, il faudra songer à ton avenir. Quel avenir? C'est à toi de choisir. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Je te le promets. Je te le promets, Hubert. Dans la berline. Maxime se sont mariés sans amour. Pour leur père, Maxime ne représente que l'héritier. Et pour la mère, le devoir d'épouse. Le pauvre Maxime, au milieu de ses parents, il se sent bien seul. Les journées sont longues et il a hâte d'être à Paris. Après-midi, où il fait chaud et orageux, Maxime se promène sur un chemin boisé et médite sur son avenir. Sa mère aimerait, ou plutôt aurait aimé, que son fils entrât dans les ordres. Son souhait était voulu en partie pour se venger de ce mariage forcé et pour cet héritier qu'elle a été obligée de faire. Mais si l'héritier entrait dans les ordres, c'est comme s'il n'y avait pas eu, il n'y en avait pas eu. C'est la fin de la lignée. Son père souhaite qu'il poursuive ses études et se lance dans la magistrature. Mais Maxime ne veut aucun de ses projets. Il ne pense qu'à passer ses journées à s'amuser. Ceci se comprend, car il ne faut pas oublier qu'il a passé toute son enfance et une partie de sa jeunesse à l'intérieur de pensionnats au régime strict et au décor lugubre. Tout à coup, je dépasse avec une grande belle amazone à cheval. Maxime a tout juste le temps de la voir. Le cheval, fougueux, en passant devant lui, frôlé et fait tomber. La femme, voyant cela, le force à s'arrêter. Et le cheval rue plusieurs fois et manque de la faire tomber. Elle le fouette, il rue. Elle fouette et tire sur les rênes. Il s'arrête enfin. Elle descend de cheval, essoufflée, en sueur. Elle court vers Maxime, qui est resté à terre. Elle se penche vers lui. Il a le teint pâle. Voit qu'il est tout jeune. Le secoue doucement. Il ne bouge pas.
Monsieur. Paniquée, elle lui donne une petite tape sur la joue. Lorsque Maxime ouvre les yeux, il voit contre son visage un visage de femme qui lui paraît d'une grande beauté. Elle a des cheveux bruns tombants, de grands yeux qui sont d'un bleu roi. Ses lèvres sont sensuelles, elle sent vivre et gracieuse. Vous allez mieux, monsieur? Oui, merci. Vous pouvez vous lever? Oui, je crois. Il se soulève, elle l'aide. Une fois qu'ils sont tous deux debout, je veux m'en avouer, mon cheval a dû être paniqué par quelque chose. Cela n'est rien. Je vous raccompagne chez vous, si vous le voulez. Non, merci, je n'habite pas bien loin. Bon, eh bien, si vous sentez bien, mon cheval et moi allons rentrer. L'orage ne va pas tarder. Il la raccompagne jusqu'à son cheval. Elle monte. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Et il la voit ébloui partir. C'est la première fois que Maxime voit une femme, une vraie femme. Cette femme si belle, si femme, tellement femme, qu'il a l'impression d'avoir vu la féminité en personne. Son corps est tout chaviré. Tout chaviré. Arrivé dans sa chambre, il est pris d'une tristesse immense, car il vient de s'apercevoir qu'il ne connaît pas son nom, ni d'où elle vient. Il s'allonge sur son lit. D'un grand désespoir. Et tout à coup, l'orage arrive. L'orage gronde. La pièce s'assombrit. Il ne sait pourquoi, mais il se met à pleurer. Tout à coup, le vent ouvre la fenêtre mal fermée. Il souffle les rideaux et entre en rafale dans la pièce. Les éclairs dans un ciel sombre et menaçant. Maxime, allongé sur son lit, sent cette scène cauchemardesque. Il lui semble que son lit est au milieu d'une mer déchaînée, aussi bouillonnante que son âme est triste. Vivre et se lutter avec les éléments, les hommes, la vie elle-même. Tout à coup, la porte de sa chambre s'ouvre. Il vient de rentrer. Il court fermer la fenêtre. Et lui dit :
tu es complètement fou. Que fais-tu dans ce lit sans bouger, alors que le vent, la pluie entrent dans la chambre? Tu n'es plus un enfant, faut sortir de tes rêves, entrer dans le monde des adultes. Et il sort de la pièce.
Entrer dans le monde des adultes. Il ne demande que cela, Maxime. Mais comment lutter avec le destin? Comment chercher à revoir la belle apparition de tout à l'heure? On frappe à la porte. Oui?
C'est le dîner, monsieur. Il est servi.
Tiens, je descends. Durant le repas, son père l'observe.
Notre jeune ami rêve. Il est temps de te réveiller. Demain, nous partons à Paris.
Demain?
Oui.
Il se dit, la belle Amazone, c'est fini. Je ne la rêverai plus. Je ne saurai jamais qui elle est.
Le père frappe avec sa cuillère sur son assiette.
Je dis qu'il est temps de te réveiller et penser à ton avenir. Je tiens à ce que tu fasses tes humanités. M'as-tu compris?
Thank you.
Les deux pressants sont entrés dans leur hôtel particulier au Marais à Paris. C'est une demeure du XVIIIe siècle, refaite et meublée avec des meubles style Louis XVIII. Car pendant la Révolution, l'hôtel a été entièrement brûlé et ses meubles avec. Maxime s'est inscrit pour se distraire et avoir la paix à l'université pour y apprendre son droit. Il travaille mollement. La belle Amazone s'occupe son esprit. De cette apparition, il en a fait des rêves et ses nuits ne se passent pas sans qu'il y pense et des rêves voluptueux guident de ses mains vers les parties les plus intimes de son corps. Il se réveille en sueur, honteux d'avoir mouillé sa chemise de nuit et ses draps. Un après-midi, il est dans sa chambre, sa mère le fait demander au salon. Il s'arrange et descend. Avant de frapper à la porte, il entend des voix. Soupir. Zut, ma mère va encore me présenter à une de ses amies. Il frappe et entre. Oui, c'est bien cela. Elles sont deux assises sur des chaises en face de la mère, une vieille et une jeune fille. La vieille est habillée de noir et a des cheveux blancs. La jeune est blonde, elle doit avoir dans les 16 ans. Son visage est délicat, doux. Elle semble aimer rire. Et est habillée d'une robe beige. La mère dit avec le sourire. « Ah, voilà mon fils !» La dame dit. « Quel charmant jeune homme !» La mère. « Je tiens à te vous présenter à mes amis, la Gargis. La jeune fille que voilà, elle nous fait le plaisir de faire son entrée dans le monde, dans le bal que je donne prochainement. Nous comptons sur toi pour servir de cavalier. Je ferai de mon mieux. Excusez-moi. » Et il sort du salon. Encore une corvée. Je vais me servir de nounou à une gamine. Une demi-heure plus tard, sa mère frappe à sa chambre. Entrez. Elle entre. Il était allongé, il se lève. Il présente une chaise à sa mère qui s'assoit. Comment trouves-tu cette jeune fille ? Bien, rien de spécial. Elle est charmante et très bien élevée. Les La Rogis sont une très grande famille et je serais très heureuse si vous pouviez sympathiser. Je n'ai pas l'intention de me fiancer, mère. Je sais, tu es encore trop jeune, mais plus tard... Je suis vraiment navrée, mère, mais j'aimerais choisir seule mes connaissances. Nous en reparlerons. En tout cas, nous comptons sur toi pour le bal. Ça vous fait plaisir ? Elle soupire, se lève et sort de la pièce.
Maxime est furieux. Voilà qu'on me cherche à me marier. Et avec cette gamine, pour qui me prend-on? Je ne suis plus un enfant. Et puis, j'aime. Qui? Je suis fou. Je suis fou. L'après-midi se promène boulevard Saint-Honoré. Tout à coup, il voit descendre d'un fiacre. Elle, oui, elle, enfin, il croit la reconnaître.
Madame Désir.
C'est pas pour acheter, monsieur.
Il croit la reconnaître. Elle est rentrée chez une modiste. Il s'est approché, ne pas hésitant, et attend le corps battant qu'il sorte du magasin. Il a chaud. Sa salive lui manque. Il se sent intimidé et honteux, mais il ne veut pas partir. Et si ce n'était pas elle? La mémoire peut être trompeuse. Quelle horreur! Prendre une autre personne pour sa bien-aimée. Et si je me suis trompé? Je ne suis plus digne de vivre. Je jure de me jeter sur le champ dans la Seine. Mais si c'est elle, que dois-je faire? Peut-être est-elle mariée? Ou alors, elle me trouvera trop jeune, niais? Je ne sais. Si elle ne m'accepte pas, je me brûlerai la cervelle. Il est tellement pris par ses pensées qu'il ne s'est pas rendu compte qu'une heure est passée. Avant qu'elle ne sorte du magasin, elle tient à la main un carton. Il est ébloui par elle, il est ébloui. Et il en oublie toutes ses pensées. D'un pas hésitant, il s'approche, quitte son chapeau. Pardonnez-moi. Oui, dit-elle, je suis le jeune homme qui a été accroché par votre cheval cet été du côté d'Argy. Oh oui, elle est surprise, il est tremblant. Vous allez mieux? Oui, je vous remercie. Elle le regarde bien et sourit et dit, quelle surprise! Elle s'apprête à le quitter et se dit, je vais encore la perdre. Si vous voulez, désirer, je peux vous aider avec vous, apporter votre paquet.
Que je te reprenne,
ah,
tu m'as pas regardé,
dit-elle. Non, merci. Mais elle le regarde, il a l'air si mignon. Et puis, elle se souvient de son accident. Oh, et puis oui, pourquoi pas?
Il fait beau, au lieu de prendre un fiacre, venez, si ça vous fait plaisir. Elle lui donne son carton. Nous allons tout au bout du boulevard. Nous tournons à gauche. Tout en marchant, elle lui demande, vous habitez loin? Le marais, seul? Non, chez ma famille. Vous êtes étudiant? Oui, je suis inscrit à la faculté. Elle le regarde et le trouve gentil et bien. Lui aussi la regarde. Arrivé devant une maison bourgeoise, voilà, je suis arrivé. Elle lui tend le paquet. Voir ses cheveux qui ondulent et son air gêné, elle ne peut pas le laisser comme cela. Si vous voulez, pour vous remercier, je vous invite à boire un verre chez moi. Oui, je veux bien. Elle ouvre la porte de l'allée pour le faire entrer. Malgré elle. C'est idiot. Pourquoi se mettre dans cet état? Ce n'est qu'un jeune homme. Je pourrais être presque sa mère. Elle habite au deuxième étage, une petite pièce meublée, en meubles lucièses bois blanc. Les murs sont tapissés de soie rose pour la chambre et vert pour le salon. Elle vit seule dans ces deux pièces. Femme lui fait le ménage et lui prépare son repas le matin. Elle ne travaille pas et vit d'une petite rente que lui a laissée son père, qui était propriétaire terrien dans le Berry. Avant qu'elle ouvre la porte, il voit son nom sur la plaque. Mathilde. Sève. Mathilde. Tête vide et tellement surpris et émerveillé par ce qui lui arrive. Elle ouvre la porte. La fait entrer. Il sent une impression étrange, un petit pincement au corps. Tout est clair. Il a l'impression d'entrer dans une bonbonnière. La dame a ma bonbonnière. Elle le fait entrer au salon. La fait asseoir. Elle prend sur la cheminée une boîte à bonbons, l'ouvre. La lui tend et lui dit, pour vous faire patienter, le temps que je me mette à l'aise. Et elle sort de la pièce. et reste seul au milieu, ou plutôt à l'intérieur de cette bonbonnière. Ne sais quoi penser. 5 minutes plus tard, elle revient. Elle a quitté son manteau et porte une robe bleu roi. Elle s'approche de lui. Que désirez-vous boire? Ce que vous voulez, elle sourit. Alors un bourbon. Elle va chercher dans un coin du salon, sur une table, une bouteille et 2 verres. Elle est servie et s'est assise sur une chaise à côté de lui. Ils sont comme 2 personnes qui ne se connaissent pas et n'ont rien à se dire, et pourtant aimeraient sympathiser. Elle sourit de la gêne de Maxime, qui aujourd'hui, qui rougit de ne savoir quoi dire. Alors, elle lui demande pour arrêter ce silence. Vous étiez en vacances à Argy? Oui, mes parents. Oui, mes parents ont une propriété et nous allons souvent là-bas. Vous aimez y aller? Ce n'est pas très drôle, mais ça fait plaisir à la famille. Elle regarde sa montre et dit: Oh mon Dieu, je dois me préparer. J'ai une amie qui vient me chercher. Il se lève, elle aussi. Je vais vous quitter. Je vous remercie de m'avoir accompagné. Et elle le guide vers la sortie de l'appartement. Lui ouvre la porte. Avant de partir, il lui dit: Puis-je revenir? Elle se penche vers lui et lui dit tout bas: Oui, si vous voulez, venez me voir mardi matin. Non, mardi après-midi. Puis elle baisse la tête. Au revoir. Au revoir. Et il sort de l'appartement. Elle a fermé la porte et va songeuse au salon. Je suis complètement folle. Que vais-je faire de ce jeune homme? Ce n'est pas possible. Elle sourit. Fait un pas de danse. Hausse la tête. Complètement folle.
Non, non.
Maxime, sur le chemin qui le ramène à son hôtel, a le souffle coupé. Un vrai conte de fées. Je la retrouve, je la reverrai. Un vrai conte de fées. évoque les domestiques et sa mère sans l'effervescence. En évitant d'être vu, il monte à sa chambre. Il veut être seul pour pouvoir rêver tranquille. Une fois dans sa chambre, il se dit « Où diable ce bal ?» sourit et se couche. Je rénove tout ce qu'il a fait, les heures passées. Et ne s'en rend pas compte, sa chambre est maintenant dans la pénombre. Les heures ont passé, il ne s'en est pas rendu compte. On frappe à la porte. C'est sa mère qui lui parle derrière la porte.
Maxime, tu es là ?
Oh, mère, tu te prépares pour ce soir?
Oui, mère.
Bien, mon fils. Il se lève. Allume une bougie et se prépare.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Maxime, production Mise en scène, Julien Jean-Pierre.